Bonjour et bienvenue dans l'Info C'est clair. Réunion demain à Bruxelles avec à la clé de nouvelles sanctions possibles contre la Russie et notamment un possible embargo sur le pétrole, le gaz, l'électricité, voire le gaz russe. L'Info C'est clair est intitulé « Essence, électricité, gaz, flambé à tous les étages ». Pascale Hébel, vous êtes directrice du pôle consommation et entreprise du Crédoc. Bonjour, auteur de La révolte des moutons, les consommateurs au pouvoir, c'est aux éditions Autrement. Gaëlle Mac, vous êtes directrice déléguée de la rédaction de Challenge. En une de Challenge, jeudi, la bataille du pouvoir d'achat, 15 pages sur le pouvoir d'achat. Erwan Benezet, vous êtes journaliste au service économie du Parisien aujourd'hui en France. À lire aujourd'hui cet article, un pétrole, gaz, charbon, l'embargo, plus que jamais sur la table. Et puis je rappelle que vous êtes l'auteur de Nucléaire, une catastrophe française, c'est aux éditions Fayard. Merci de participer à cette émission en direct. Donc après le massacre de Boutcha, les Européens étudient de nouvelles sanctions contre la Russie. Pourquoi pas donc un embargo sur les hydrocarbures russes? Sujet de Julien Gasparuto et Laurent Esnault.
Le chancelier allemand Olaf Scholz, le président français Emmanuel Macron ou encore le président du Conseil européen Charles Michel. Tous appellent à prendre de nouvelles sanctions contre Vladimir Poutine. Les images de ces civils ukrainiens gisant sur le sol ont choqué le monde entier. Et la question d'un embargo sur le gaz russe revient au centre des discussions. Pour la première fois, l'Allemagne ouvre la porte à cette option par la voix de sa ministre de la Défense.
Nous devons rehausser notre réponse en matière de sanctions et il faut échanger le plus rapidement possible au niveau européen sur ce qui est encore possible. Les livraisons d'énergie feront partie des discussions.
Mais en Allemagne, tout le monde n'est pas de cet avis, car le pays est l'un des plus dépendants au gaz russe, qui représente 66% de ses importations. La Hongrie, 95% de dépendance, et l'Italie, 43%, restent également opposés à un embargo. Trois pays viennent eux de franchir le pas. L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie n'importent plus de gaz russe. Eux aussi étaient très dépendants, de 41 à 100% des importations. Mais ils ont fait des réserves et ils ont commencé à diversifier leurs approvisionnements.
C'est dans notre intérêt stratégique de réduire notre dépendance, car sinon la Russie l'utilisera contre nous comme un outil géopolitique et économique.
Dans l'immédiat, les Européens pourraient s'attaquer à deux autres secteurs stratégiques, le pétrole et surtout le charbon russe, bien plus facile à remplacer que le gaz. Les discussions vont s'intensifier ici à Bruxelles dans les prochaines heures. Le nouveau paquet de sanctions devrait être acté mercredi ou jeudi, à l'occasion d'une réunion des 27 ambassadeurs de l'Union européenne.
Alors, Erwan Benezet, on sait déjà que les Allemands sont contre. D'ailleurs, les dirigeants polonais disent en Allemagne, vous écoutez un peu trop vos chefs d'entreprise et pas assez les victimes innocentes. Et c'est vrai que, je cite le patron de BASF, la semaine dernière, dans un journal allemand, il dit que si jamais on coupe le gaz russe, cela pourrait plonger l'économie allemande dans sa plus grande crise depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Alors, écouter les industriels, oui, parce que c'est écouter l'économie de l'ensemble du pays. Et donc derrière, c'est des emplois, c'est l'activité économique, etc. Ça peut être, l'impact pourrait être effectivement très violent. Sur les 800 millions de dollars que l'on paye à la Russie pour ses hydrocarbures tous les jours, un quart, 200 millions, c'est l'Allemagne. Donc c'est effectivement, aujourd'hui, vous le rappeliez dans le reportage qu'on vient de voir, 66% du gaz qui est consommé par l'Allemagne provient de la Russie. Le problème, effectivement, c'est que si on coupe dès aujourd'hui le gaz, l'impact... Il y a une note du Conseil d'analyse économique parue hier qui
explique que... Oui, qui a l'air de dire que ce n'est pas si terrible que ça, que alors, c'est 100 euros par adulte.
Moi, j'ai trouvé, j'ai pas encore eu le temps de m'y pencher suffisamment, mais que ça pêchait un peu par excès d'optimisme. Ouais. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas...
C'est vrai qu'ils ont l'air de dire que ce n'est pas si terrible, mais ce n'est pas très documenté.
Moins de 1%, moins de 1 point pour la France, au maximum. On serait entre 0,1 et 1, et plus de 3 points pour l'Allemagne. Donc, effectivement, on voit que tout le monde n'est pas logique à la même enseigne en Europe vis-à-vis de la dépendance aux hydrocarbures. Et là, l'impact industriel pour l'Allemagne pourrait effectivement considérable. Après, il y a un choix à faire et c'est l'Allemagne paye aujourd'hui une politique et une stratégie de dépendance au gaz russe qui date depuis de nombreuses années.
Justement, Gaëlle Mac, est-ce qu'il n'est pas temps de revisiter le bilan d'Angela Merkel ? qui a fait beaucoup de commerce en se bandant les yeux avec M. Poutine, etc., et très peu de géopolitique. Et finalement, ça nous revient en boomerang maintenant. Angela Merkel s'est lié les mains à Vladimir Poutine.
Oui, c'est vrai, c'est le cas d'Angela Merkel, mais pas seulement d'elle. Globalement, on peut quand même considérer que beaucoup de pays européens n'ont pas vraiment réfléchi à leur politique énergétique en termes géopolitiques. Globalement, quand même, si on y réfléchit un peu, se dire qu'on met 50, 60, 70% de son approvisionnement en gaz qui va devenir, qui lui-même représente une très grosse partie de l'approvisionnement d'énergie du pays, entre les mains d'un seul pays, qui est par ailleurs une autocratie, c'est quand même manquer un tout petit peu de réflexion politique, parce que je veux dire, on sait très bien, et comme Erwan l'a dit, que si du jour au lendemain on devait se passer de ce pays, on assisterait à une récession, enfin à un grave coup économique. Donc c'est vrai qu'à posteriori on peut se dire le général de Gaulle avait quand même une certaine idée. La souveraineté énergétique, c'est un sujet, comme la souveraineté en général, industrielle, agricole, etc., et énergétique particulièrement, parce que nous sommes des économies énergie intensive. Enfin, on a besoin vraiment de beaucoup de gaz, de pétrole, d'électricité dans une économie moderne pour fonctionner.
Qui viennent souvent de pays qui sont... on appelle ça la malédiction du pétrole. C'est que souvent, quand on a du pétrole dans son sous-sol, ça se termine en pays autoritaire parce qu'au fond, ceux qui sont au pouvoir n'ont qu'une obsession, c'est mettre la main sur le magot.
C'est ça. Alors en même temps, The Economist a fait un article très intéressant où il parle de la transition énergétique, où il dit, donc il y a trois énergies fossiles, le charbon, le pétrole et le gaz. Et il y a sept métaux qui sont nécessaires pour l'électrification de l'économie. Si on voulait faire une transition énergétique pour les batteries électriques, pour fabriquer des panneaux solaires, pour fabriquer des éoliennes, c'est le lithium, le cobalt, le cuivre, le nickel, etc. Et là, on s'aperçoit que de même, il y a 10 pays qui font 75% de part de marché dans ces 7 métaux et que la moitié de ces pays, c'est quand même des
pays autoritaires.
Des autocraties. Donc, on n'en est pas sorti quand même.
Bon, Pascal Hébel, de toute façon, hier c'était le rapport du GIEC qui nous dit qu'il faut en sortir des énergies fossiles. Alors est-ce qu'on ne va pas de toute façon de gré ou de force vers l'abandon de ces énergies fossiles? Et on commence à parler de rationnement. Les Allemands d'ailleurs parlent de rationner le gaz. Alors pour les industriels, on commencerait.
Oui, on voit bien que ce n'est pas si simple de complètement changer de type d'énergie. On a eu ce week-end une demande aux Français, parce qu'il a fait très froid, de réduire leurs dépenses hier matin. Ça s'est fait. C'est-à-dire qu'on voit qu'on peut arriver, et c'était ce qui s'était passé dans les années 70 aussi, à limiter notre consommation, ne pas le matin se mettre en route des machines à laver, faire une consommation qui soit plus étalée dans la journée. Mais en effet, on voit bien que ce n'est pas si simple de tout mettre en renouvelable. La preuve, l'Allemagne a supprimé le nucléaire. L'Allemagne est en avance, mais c'est celle qui s'en sort le moins bien dans cette crise.
Alors, en France, 20% de notre gaz vient de la Russie. Alors, est-ce qu'on pourrait réduire de 20% notre consommation de gaz? Il y a des astuces simples que je ne soupçonnais pas, qu'on va voir dans ce sujet de Marie-Pierre Degorce et Julien Bigard. Des astuces simples pour limiter sa consommation de gaz à la maison. On regarde.
Contrôler sa consommation de gaz, c'est le défi des familles. Et pour économiser l'énergie, cette jeune maman contrôle à distance la température.
C'est relié à ma chaudière, ici, chaudière à condensation. Et je peux régler la température. Ça permet quelques économies.
Pour mieux gérer sa consommation, quelques conseils. Chauffer à 19 degrés maximum, entretenir sa chaudière et aérer tous les jours pour éviter l'humidité. Une meilleure isolation thermique des bâtiments est aussi préconisée.
Alors, Erwan Benozé, c'est complètement contre-intuitif, ça. Pour avoir plus chaud et donc pour économiser du gaz, il faut aérer. Si on aère, toute la chaleur s'en va.
Alors, je suis d'accord, c'est contre-intuitif. Et en fait, l'explication est relativement simple, comme très souvent pour ce genre de sujet. C'est l'humidité. C'est-à-dire que c'est la condensation qui est l'ennemi de la chaleur. En fait, ça va être plus difficile pour un système de chauffage de chauffer une pièce humide que de chauffer une pièce qui est sèche. Et donc, en fait, vous aérez tous les jours 10 minutes vos pièces, vous refermez.
La pièce sera sèche et la chaleur ne va pas se perdre à faire tomber les gouttelettes.
Et c'est bien plus sain pour le logement. Donc, il faut effectivement aérer et grâce à ça, on gagne des degrés.
Alors, justement, c'est une autre question. Ça, bien plus sain pour le logement. On n'arrête pas de parler d'isolation, mais moi, je me dis, est-ce que l'air, à la fin, il n'est pas vicié à force d'isoler les bâtiments? Parce que c'est la grande chose dont on parle.
Alors, vous avez tout à fait raison. Et il faut, en parallèle, qu'il y ait un système de circulation de l'air. Si l'air ne circule pas, il va d'abord donc, se condenser, c'est ce qu'on vient de dire. Et en plus, au bout d'un moment, il ne sera pas très bon. On l'a vu notamment avec la pandémie Covid, quand on disait qu'il fallait ouvrir. Bon, ça marche pour le virus, ça marche pour les bactéries, ça marche pour la grippe, etc., etc. Et donc, effectivement, il faut aérer et il faut que l'air circule.
Vous avez l'air d'être très calé. Je vais continuer parce qu'il y a des tas de petites questions pratiques. Je comprendrais très bien que vous soyez collable à un moment. mais on tombe souvent sur des margoulins aussi. C'est une... Je veux dire, si jamais je veux tout refaire chez moi, combien de reportages n'a-t-on pas vu à la télévision sur des gens qui se sont fait arnaquer, qui leur vendaient des panneaux solaires, de l'isolation qui ne sont pas venus, etc. Et on a l'impression qu'il y a des guichets partout et que c'est assez compliqué, comment dire, d'un point de vue administratif.
Alors, d'une part, l'État, là encore, a identifié le problème et a essayé d'y apporter une solution et propose depuis le 1er janvier de cette année un guichet unique pour tous les ménages qui souhaitent faire des travaux de rénovation énergétique. Il y a un point très important. À chaque fois, on se dit ça va être trop cher, c'est pas pour moi. On a fait aux Parisiens plusieurs reportages, plusieurs témoignages de personnes qui ne sont pas forcément des ménages qui ont beaucoup de revenus, qui sont des ménages modestes et qui ont pourtant bénéficié, parce que justement, quand ce sont des ménages modestes, les aides sont encore plus importantes. Et donc, qui ont bénéficié d'aides publiques pour pouvoir réaliser des travaux de rénovation énergétique. Et ces travaux-là, effectivement, c'est selon moi la réponse principale pour les consommateurs à la hausse des prix. La rénovation énergétique, mais aussi le fait de pouvoir gagner en autonomie énergétique avec du solaire, avec différents produits qui permettent d'emmagasiner de l'énergie, et notamment le stockage aussi va apporter une réponse extrêmement intéressante dans les années à venir, c'est-à-dire qu'on pourra à la fois produire de l'électricité et la stocker et éventuellement l'utiliser au moment, par exemple, où il y aura un pic de consommation où les prix seront extrêmement chers.
Alors, il fallait abandonner sa chaudière à fuel. Maintenant, on se dit qu'il faut aussi abandonner sa chaudière à gaz. C'est quoi? Alors, on passe à l'électrique, à la pompe à chaleur. C'est magique, d'ailleurs, la pompe à chaleur.
La pompe à chaleur, c'est tout de suite un tiers à 40% d'économie d'énergie.
Donc, on prend la chaleur de l'extérieur et on la ramène à l'intérieur.
Ouais, c'est ça.
Ça paraît incroyable.
Et c'est le différentiel qui produit aussi de l'électricité.
Comme un frigidaire à l'envers, quoi. On rejette
c'est
froid
exactement ça.
Et on ramène du chaud.
La micro-bonne nouvelle sur le fait que les prix aujourd'hui augmentent, c'est que mécaniquement, si les prix augmentent, le moment où vous allez rentabiliser votre investissement va se rapprocher. Avant, c'était 5 ans. Aujourd'hui, je crois que c'est entre 2 et 3 ans. Et donc, ça vaut de plus en plus la peine.
Ce guichet unique, d'ailleurs, comment on fait pour le trouver? Alors, on a intérêt à passer par le site du ministère de l'Environnement
Exactement, c'est France Rénov. Soit vous tapez France Rénov sur le site et vous le trouvez. Vous avez aussi 450 magasins répartis dans toute la France. Et donc, aujourd'hui, vous avez un accès relativement facile. Il y a un point très important sur ce que vous avez dit sur les margoulins. Vous avez aussi des entreprises qui, aujourd'hui, accompagnent les particuliers. C'est leur job. Les conseils, à la fois parce que c'est quand même un peu une jungle administrative et ça peut effrayer, ça c'est le premier point, mais ensuite qui apporte une garantie sur les travaux qui sont réalisés. Et ça permet de sécuriser et de rassurer énormément les personnes qui voudraient se lancer dans cette aventure.
Un grand merci, Erwan. Vous vouliez ajouter quelque chose avant qu'on passe à ce qui cristallise l'énervement qui est le prix du carburant?
Non, mais pour certains ménages à bas revenus, je sais que l'ADEME aussi propose des expertises gratuites. Il peut y avoir un expert qui vient et qui vous dit, pour votre logement, voilà le diagnostic et voilà ce qui serait intéressant de faire. Et là, c'est quand même une agence d'État. C'est gratuit et on est plutôt rassuré si on doit faire passer un gros pas, genre changer de système de chauffage.
Mais ce qui cristallise le mécontentement, on le sait tous, c'est l'envolée des prix du carburant. Sauf que ce week-end, c'était la ruée dans les stations-service, puisqu'il y avait la fameuse baisse de 18 centimes par litre du gouvernement. Du coup, tous les automobilistes sont allés faire leur plein, y compris venant de l'étranger. Vous voyez ce reportage en Alsace de Caroline Arnold et Régis Massini.
Une longue file d'attente qui ne désemplit pas. Toute la journée devant de nombreuses stations-service alsaciennes, les clients ont dû patienter pour pouvoir remplir leur réservoir et profiter enfin de la remise gouvernementale.
Je passe tous les jours, travaille, donc j'ai attendu aujourd'hui. Et là, je suis vraiment sur la réserve. C'est le moment que je fasse le plein, quoi.
Il faut dire que 18 centimes de moins par litre d'essence, cela se voit tout de même sur le prix du plein.
Il y a 20 euros de gagné, là.
20 euros ?
Oui.
C'est toujours une bonne nouvelle quand ça baisse. Mais ça a augmenté assez, ils ont assez récupéré, là.
Une bonne nouvelle aussi pour les professionnels qui, ces dernières semaines, scrutaient avec inquiétude les fluctuations des prix de l'essence.
On est à 1,74 € le litre, contre plus de 2 euros hier. Donc effectivement, ça a même baissé plus que les 18 centimes.
Un soulagement pour cette infirmière libérale. Chaque jour, elle parcourt près de 200 km pour assurer ses visites. Avec 3 pleins par semaine, son budget essence avait explosé.
Sur mon budget de 900 euros, moi je pense pouvoir économiser entre 150 et 200 euros. Donc revenir à des coûts qui étaient sensiblement les mêmes qu'avant. Mais bon, c'est une mesure qui est temporaire, donc on ne sait pas du tout comment ça va se passer dans la suite.
Plutôt qu'une remise à la pompe, les infirmiers réclament donc une revalorisation de leur indemnité kilométrique. Mais en attendant, la réduction des prix à la pompe séduit en tout cas nos voisins. Dans les stations-service frontalières aujourd'hui, se pressaient de nombreux Allemands.
Je suis venu faire les courses et j'en profite pour faire le plein. C'est beaucoup moins cher qu'en Allemagne.
C'est 20 centimes de moins pour le sans-plomb 98 et même 30 centimes pour le sans-plomb 95.
Quelques semaines déjà que les Allemands scrutent les prix de l'essence en France. Un phénomène qui pourrait s'inverser puisque l'Allemagne devrait à son tour réduire sa taxe sur les carburants.
Pascal Hébel, pourquoi est-ce que c'est si important psychologiquement le prix d'essence? Parce que quand on regarde froidement les chiffres, ça ne représente, alors vous allez me dire c'est une moyenne, mais ça ne représente que 3% des dépenses des ménages.
Oui, en effet, en moyenne, c'est que 3,2% des dépenses des foyers français. Mais en fait, il y a des différences énormes. Par exemple, sur un an, ça coûte 1 500 euros en moyenne pour ceux qui vivent dans des toutes petites communes, contre seulement 650 euros quand on est dans des très grandes villes. Donc en fait, c'est deux fois plus quand on est dans des zones rurales. Et puis bien sûr, ceux qui travaillent et qui ont des métiers de commerciaux et qui utilisent de l'électricité, enfin de l'énergie tous les jours. Et en fait, pourquoi c'est visible? Ça, on a vraiment toujours étudié ces décalages entre la réalité des prix et la perception. Et en fait, c'est tous les achats du quotidien qui font qu'on le voit tout de suite. Donc c'est le prix de la baguette, mais c'est aussi le plein et le prix au litre. Tout le monde le connaît par cœur, en fait, les prix à la pompe. Tout le monde les voit.
Gaël Max, si le gouvernement a agi, c'est parce qu'il sait d'expérience avec les Gilets jaunes que la mobilité est un sujet très inflammable et que la colère sociale gronde derrière un prix du carburant à 2 euros le litre.
Oui, bien sûr. Bon, ben là, on est en période électorale. En même temps, on a bien compris. Alors, Bruno Le Maire nous a dit il n'y aura pas de deuxième quoi qu'il en coûte. On y est presque, au deuxième, quoi qu'il en coûte. Là, en fait, l'ensemble des mesures depuis septembre, il y a quand même eu un chèque énergie qui a été renforcé, le prix du gaz. Ça, c'est 10 milliards. Quand on fait un bouclier tarifaire sur le prix de l'électricité, c'est 10 milliards. Quand on fait un bouclier tarifaire sur le prix du gaz, c'est 10 milliards. Aujourd'hui, Bercy l'a dit lui-même, le ministre de l'économie, c'est 25 à 26 milliards. Bon,
Plus de deux fois le budget de la justice.
Voilà, c'est quand même considérable. Je rappelle que le quoi qu'il en coûte, si on enlève les prêts garantis par l'État qui ne sont pas vraiment de l'argent décaissé, c'était aux alentours de 60 milliards. Donc c'est quand même... C'est considérable.
Donc vous voulez dire que ce n'est pas tenable dans le temps, cette politique d'aider avec de l'argent public les automobilistes à faire le plein?
En tout cas, toute mesure qu'on fait sur l'énergie, l'électricité, le gaz, le carburant a deux ou trois caractéristiques qui est d'être très très cher, de se voir un peu parfois pour les consommateurs, mais pas autant qu'ils l'aimeraient, et d'être forcément temporaire, parce que, bon, je veux dire, on ne peut pas lutter contre les prix du marché mondiaux comme ça éternellement. Mais cela dit, pour revenir à cette histoire de gilets jaunes, effectivement, qu'est-ce qu'on voit en Espagne? En Espagne, ils ont quand même presque 10% d'inflation maintenant. Ils ont eu 60%.
Parce qu'il n'y a pas toutes ces aides du gouvernement.
Parce qu'il y a eu beaucoup moins d'aides. Le gouvernement espagnol n'est pas en période électorale et est moins riche, globalement. Et donc, ils ont eu presque 60% d'augmentation de la facture des prix de l'énergie. Et nous avons des gilets jaunes. Enfin, il y a des manifestations de rue. Oui, ça commence. Donc, ils ont raison de s'en inquiéter. C'est clairement un sujet. Et d'ailleurs, on le voit dans la campagne présidentielle aujourd'hui. Le sujet, c'est le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat.
Erwan Benazé, quel paradoxe. Le gouvernement a commencé ce quinquennat en faisant la taxe carbone et il le termine en faisant une subvention carbone. Puisque, pardon, mais baisser des taxes sur le carbone, c'est subventionné.
Alors, ce que dira le gouvernement, effectivement, à juste titre,
alors, on peut le comprendre,
c'est pas du tout le même contexte. Voilà, ouais. Ça, c'est certain. Quand vous parliez de moments hautement inflammables, la rentrée va vraiment être à haut risque, puisqu'effectivement, on ne sera plus en période électorale. Et puis, il y a déjà des annonces...
Et que toutes ces aides s'arrêteront.
Et que toutes ces aides s'arrêteront et que le gouvernement n'aura plus, en tout cas, cette motivation éventuelle de caresser dans le sens du poil l'électeur. Et on entend déjà des annonces de prochaines hausses. Par exemple, la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, qui fixe, enfin, en tout cas, qui calcule la hausse que devraient avoir les tarifs régulés dans l'électricité, annonce qu'au mois de février 2023... la hausse devrait être comprise entre 7 et 8% à minima. On va se retrouver effectivement avec une sorte de rattrapage, même si le gouvernement déteste ce terme, de rattrapage des prix, notamment dans l'énergie.
Ah bah zut, parce que moi qu'allais dire, face à la flambée des prix de l'essence, une solution, passer à la voiture électrique. En tous les cas, c'est le réflexe qu'ont beaucoup d'automobilistes qui se disent, avec ce plein à 2 euros et de plus en plus la voiture thermique qui sera interdite, est-ce que ce n'est pas le moment de passer à la voiture électrique? Eh ben, chez les concessionnaires, en tous les cas, les visites s'enchaînent. Voyez ce reportage à Clermont-Ferrand, en Auvergne, de Claude Fallas.
Chez ce concessionnaire, depuis quelques jours, le balai des futurs acheteurs ne s'arrête pas. Et la majorité d'entre eux n'a qu'un seul mot sur les lèvres, électrique.
Je fais beaucoup de kilomètres dans mon métier, donc je voulais voir si, pour essayer de minimiser mon budget essence, essayer une voiture électrique.
On a vraiment senti, mais du jour au lendemain, un réel engouement pour l'électrique. Et après, c'est vrai que les gens regardent principalement leur portefeuille et leur pouvoir d'achat. Et c'est vrai que depuis la hausse du carburant, on a vraiment des week-ends notamment qui sont très très chargés avec beaucoup de demandes pour l'électrique.
Des véhicules dont le prix en refroidissait plus d'un il y a quelque temps encore. Mais aujourd'hui, l'argument économique change de camp.
Les gens pensent plus en coût total d'utilisation, en coût global, qu'en coût d'achat réel. On part beaucoup sur des systèmes de location qui permettent de budgétiser la voiture. Et du coup, en associant l'assurance, le coût d'un plein d'électricité, on se rend compte qu'en coût total, c'est pas si cher que ça une électrique. Et ce frein du prix se résorbe assez vite.
Conséquence immédiate, dans ces concessions, ces dernières semaines, entre 70 et 80% des ventes sont des voitures électriques. La voiture hybride prenant la seconde position, un mouvement qui pourrait bien perdurer.
Alors, Pascal Hébel, c'est EDF qui donne ces chiffres, mais pour faire 100 km, pour les trajets du quotidien, ça coûte 2 euros d'électricité, un plein d'électricité, tandis qu'en thermique, ça coûte 10 euros.
Cinq fois
moins, un rapport de 1 à 5.
C'est tout à fait. C'est vraiment ça qui fait que dans 2021, la moitié des véhicules qui ont été achetés, ils étaient électriques. Donc on a vraiment passé ce cap d'acheter, même si c'est à l'achat, 10 000 euros de plus en fait. Donc ce qui se passe, c'est qu'en effet, ceux qui ont les moyens de calculer à long terme ont intérêt à passer à l'électrique, puisqu'en fait, on va interdire le thermique. Donc à la revente, un thermique n'a aucun intérêt, vous ne pourrez pas le revendre.
Si j'achète un thermique aujourd'hui, qu'est-ce que j'en ferai dans 5-6 ans?
Voilà, c'est exact. En tous les cas, l'Argus va diminuer, en fait, même si vous arrivez à le revendre, alors que l'électrique a plus d'intérêt, et surtout que le cycle de vie est plus long aussi pour une électrique, donc à l'usage, ça coûte beaucoup moins cher. Et donc, ceux qui utilisent l'électrique aussi trouvent ça beaucoup plus confortable. En fait, c'est beaucoup plus facile à conduire. Il y a vraiment une conduite qui plaît. Donc, ça marche très, très bien. Et donc, tous les constructeurs s'y mettent. Hein. Il y en a certains qui critiquent un peu encore. Je pense qu'ils vont le regretter. Mais en effet, le véhicule électrique, c'est ce qui se développe. Et puis, on a aussi des modes de financement qui ont beaucoup changé dans l'automobile. Pour acheter, on fait de la LOA, de la location avec option d'achat.
Ah ouais, on ne décaisse pas allez, 30 000 euros, voilà. On paye un loyer tous
un
les mois.
Un loyer, on peut acquérir à la fin. Donc, ce qui fait que ça coûte moins cher, on étale les 30 000 euros d'achat neuf du véhicule électrique.
Bon, alors, Pascal Hébel, vous m'avez à moitié convaincu de passer à la voiture électrique. Mais Erwan Benozé, j'ai lu votre journal la semaine dernière. Si on veut partir en week-end en voiture électrique, par exemple, en Bretagne, on a 450 km à faire. Et bien là, le problème, c'est qu'on n'est plus dans les trajets du quotidien où on recharge sa voiture la nuit. Il faut trouver des bornes. Et c'est ce que montrait le parc. Et d'ailleurs, un responsable chez Total le reconnaît bien volontiers. Il y a le problème de la gestion des files d'attente, surtout les jours de départ en vacances. Erwan Benozé, est-ce que c'est pratique de faire Paris-Marseille en voiture électrique ?
Alors c'est effectivement mon collègue Frédéric Pouchon qui avait fait ce reportage. J'avais moi-même testé des voitures électriques sur des distances, enfin en tout cas quelques centaines de kilomètres. Ça demande une adaptation, ça demande d'anticiper, c'est jouable. Mais aujourd'hui, il y a un des problèmes de la voiture électrique, c'est pas le seul malheureusement, mais un des problèmes, c'est que le réseau de bornes de recharge est insuffisant. Il est déjà insuffisant, effectivement, on est loin des 11 000 stations-service de carburant.
Ça prend 20 minutes de charger, donc s'il y a deux personnes devant soi,
il faut acheter
en 40 minutes.
C'est 20 minutes, à la rigueur, moi quand je m'arrête, 20 minutes, on prend un café, on discute un peu, ça passe vite. Et 20 minutes aujourd'hui, c'était il y a encore quelques années, bien plus. Mais il y a effectivement ce problème d'engorgement, il suffit qu'il y ait une station qui ne fonctionne pas et qui ne soit pas repérée par votre application, parce que c'est ça déjà l'outil principal autour de la voiture électrique, c'est l'application qui vous dit à tant de kilomètres, il vous reste tant de charge, à tant de kilomètres, vous avez cette station, vous allez charger en 23 minutes, enfin, c'est extrêmement précis. Mais le problème, c'est qu'effectivement, s'il y a 5 voitures devant vous, ou si la station finalement ne fonctionne pas et que ça n'a pas été dit sur votre application, vous pouvez vraiment vous retrouver en panne, non pas de carburant, mais d'électrons. Donc c'est un problème. Il y a encore des ajustements à faire. Il faut un renforcement du réseau. C'est très important. Ensuite, sur l'électricité, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que pour l'instant, effectivement, c'est 2 euros. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le carburant en France, c'est 40 millions dans les caisses de l'État chaque année.
Milliards.
40 milliards. Donc, c'est la quatrième rentrée fiscale pour...
quasiment. L'impôt sur le revenu, c'est 70 milliards. Donc oui, là c'est 40 milliards.
Exactement.
Pour le...
Qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'à un moment, surtout si en 2030...
L'État va en avoir besoin de ces 40 milliards.
Sinon, c'est un trou gigantesque. À un moment où, en plus, l'État a besoin d'argent. Donc, il va taxer l'électricité liée à la mobilité. Et donc, demain, ça ne sera plus forcément 2 euros. Donc ça, c'est déjà un problème. Il va falloir anticiper. Après, je rejoins Pascal. Conduire une voiture électrique, c'est une expérience extraordinaire, très agréable. Il y a des avantages, mais ça n'est pas la panacée.
Gaël Mac, oui, c'est vrai que... Pour l'instant, si sur un coup de tête avec sa voiture électrique, on veut faire un long trajet, on voit que ça se prête. Non, parce que l'automobile, c'est synonyme de liberté. Et là, en l'état du parc, des bornes électriques, ça se prépare, comme vous le disiez.
Voilà, hein. Le gouvernement avait quand même promis normalement 100 000 bornes, il me semble, à fin 2021. Et on est à 55 000 aujourd'hui. Donc, on n'est quand même qu'à moitié du chemin. C'est sûr que cette histoire de bornes est compliquée. Par ailleurs, il y a aussi des prix différenciés. Hein, c'est-à-dire que si on a une borne extrêmement rapide, on paye plus cher l'électricité.
Ça peut être jusqu'à 5 fois plus cher. C'est voilà. Ce que montrait votre article de Challenge.
Hein. C'est ça, 4 à 5 fois plus cher que si on le fait le soir chez soi.
Tranquille.
Voilà, ou si on a une prise lente à son travail, qui pour l'instant il y a même des prises qui sont gratuites, hein, c'est-à-dire que aujourd'hui dans certains parkings, etc., l'électricité est gratuite. Mais je pense que, comme Erwan, que on va pas pouvoir. L'État a besoin de cet argent, donc il va y avoir un basculement dans le prix de l'électricité. On peut espérer que, à l'inverse, il y ait une sorte de basculement aussi dans le prix de la voiture, parce que malgré tout, aujourd'hui 30 000 euros c'est cher, et la voiture d'occasion en électrique. Elle a sa batterie là, qui a une garantie de 8 ans. Mais je veux dire, aujourd'hui, on ne peut pas faire vraiment de la vieille occasion en électrique. Et puis, on a pour l'instant...
Parce qu'il n'y a pas de vieille voiture électrique.
Il n'y a pas de vieille voiture électrique. Et en plus, on a pour l'instant un peu ce phénomène qu'on a sur les iPhones au début. C'est-à-dire que les vieilles voitures électriques, elles ont vraiment une autonomie mauvaise. Et il y a quand même beaucoup de progression technologique dans la voiture électrique. Donc, si on achète une Renault Zoé d'il y a 5 ou 6 ans, on risque... Et cette batterie, elle ne va pas dépasser les 8 ans. Hein, parce que la garantie de 8 ans, c'est déjà le max qu'arrivent à faire les constructeurs. Donc, il y a un problème de marché de seconde main encore pour démocratiser ce marché de la voiture électrique.
Sauf que vous le disiez tout à l'heure, là, on nous prépare des hausses des prix de l'électricité parce que la France, qui était un grand pays producteur d'électricité, bah, en ce moment, notre parc est vieillissant, on ne cesse de le rappeler. Il y avait près de la moitié de nos réacteurs qui sont en ce moment à l'arrêt. Résultat, hier, EDF a été surpris par une vague de froid et a appelé tous les Français à réduire leur consommation. Bah, là aussi, il y a des astuces pour réduire sa consommation d'électricité. On va les voir dans ce reportage avec Anne-Claire Le San et Didier Brignan.
On apprenait autrefois à éteindre la lumière en sortant de la chambre, etc. Donc j'ai continué par habitude.
Dès qu'on sort d'une pièce, j'éteins. Et quand les enfants n'éteignent pas, je leur demande si c'est Versailles ici. Et voilà, c'est tout.
C'est éteindre les écrans quand ils ne servent pas. C'est couper la lumière quand on n'en a pas besoin. Utiliser des ampoules basse consommation aussi.
Ah bah oui, c'est un geste citoyen, il faut le faire. C'est déjà ce qu'on fait.
Les Français ont en moyenne 73 appareils électriques chez eux. Comme Thibaut Xéry, il a déjà adopté les bons réflexes pour faire la chasse au gaspille. Éteindre le chauffage ou les appareils en veille, comme la box qui consomme autant qu'un lave-linge.
C'est comme l'ordinateur. Donc là, on est avec la télé. Je vais éteindre, mettre en off totalement la box pour la télé au lieu de la laisser toute la nuit allumée.
Autant d'initiatives qui ont un impact sur la planète et permettent de faire jusqu'à 10% d'économie sur la facture.
C'est vrai que Pascal et Belle, tous ces appareils, la type box, on ne s'en rend pas compte, mais on en a de plus en plus, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Et on les laisse tourner tout le temps en plus.
Oui, c'est ça qui fait de la croissance dans notre dépense électrique. Et en effet, de fermer sa box, ce n'est pas si compliqué que ça. Ensuite, il faut que les appareils tiennent le coup. Ils n'ont pas forcément été prévus pour être éteints, rallumés, Mais c'est vrai qu'on l'a vu là, ce week-end, en fait, lundi matin, on n'a pas justement eu un pic trop important puisque les Français ont écouté tous ces gestes. Donc on peut arriver à dépenser moins, mais c'est vrai qu'on ne va pas forcément faire comme dans les années 70, pouvoir décider qu'à 23h, il n'y a plus d'électricité du tout, que les émissions télé s'arrêtent. Hein. C'est plus comme ça qu'on vit parce qu'il y a des modes de vie qui ont changé, et notamment il y a des gens qui travaillent la nuit, ce qui était beaucoup moins le cas auparavant, tous les métiers de sécurité, dans les 3-8. Et c'est vrai qu'on a fait un usage, par exemple, de la lumière de façon énorme. C'est-à-dire que les villes sont toutes illuminées, on n'a aucun moment où...
On s'est habitué à l'opulence électrique.
Oui,
quoi.
Et puis il y a même une compétition entre les communes, à celui qui aura la commune qui brille le plus. Et donc, c'est vrai qu'il y a certaines communes qui, là, éteignent la lumière d'éclairage à 3h du matin. Mais tout le monde ne le fait pas. Donc, on sait qu'on pourrait faire des gestes, mais en termes de consommation, les consommateurs les plus âgés ont vécu le choc pétrolier de 73. Donc, ils éteignent la lumière en sortant de chaque pièce. On a eu toute une génération qui n'a pas vécu ça et qui a un peu plus de mal à rentrer dans le jeu. Quoi,
mais en fait. Erwan Benoze, est-ce que l'offre électrique, c'est pas complexifié, ce qui est bien qu'on ne sait plus très bien comment ça marche. Je veux dire, par là, autrefois, moi je me souviens, il y avait heure creuse, heure pleine. Bon, ça doit toujours exister, ça existe toujours.
Oui, mais c'est de moins en moins rentable.
Oui, mais on communique de moins en moins dessus. Ça devient aussi compliqué et opaque sa facture d'électricité que les télécoms, non ?
Heure creuse, heure pleine, par exemple, aujourd'hui, il faut être en capacité de décaler de plus de 50% sa consommation électrique, c'est-à-dire dans l'heure creuse, pour que ça soit rentable. Parce qu'en plus, l'abonnement est plus cher. Donc en fait, c'est de moins en moins rentable. Alors que c'était effectivement un levier d'économie d'énergie. Vous avez tout à fait raison. Il y a un chiffre qui m'a surpris quand même. Alors c'était RTE, le réseau de transport d'électricité, donc c'est le gestionnaire des
fils électriques.
Voilà, des fils électriques, et qui surtout est responsable de l'équilibre entre l'offre et la demande. Donc il y a un message qui a été envoyé à tous les Français ce week-end pour essayer de modérer sa consommation.
Hier matin.
Est-ce que vous savez de combien elle a été modérée ?
Mais j'ai vu que ça a été modéré.
800 mégawatts.
Combien ?
800 mégawatts.
Bah c'est beaucoup.
C'est
presque un réacteur.
Exactement. C'est quasiment un réacteur nucléaire. Et donc avec quelques gestes, surtout voilà le fait avec la conscience de ce qu'on consomme, on peut réellement agir. Et je me suis amusé. Alors j'ai vu dans le Figaro un article du Figaro d'hier matin qui était vraiment très intéressant et qui rappelait cette émission de TF1 en 1977 avec Roger Gicquel, où en direct il éteignait une lampe de bureau et il demandait à tous les Français de faire de même, d'éteindre leur lumière. Ils étaient en direct auprès justement d'EDF et on voyait la courbe de consommation qui diminuait en temps réel. C'était
Aujourd'hui, ce ne serait plus le cas, parce que les ampoules, ce n'est pas grand-chose dans la consommation nationale.
Alors, il ne suffirait peut-être pas d'éteindre les ampoules, sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas que les ampoules. Effectivement les recharges. Et c'est là aussi où il y a un levier d'économie gigantesque. Et il faut commencer par les industriels qui fabriquent aujourd'hui nos appareils électroniques. Certes, il y aurait un surcoût, mais avec des petits appareils, une mise en veille automatique. Si vous n'utilisez pas votre appareil pendant 15 minutes, il s'éteint automatiquement. Ou alors vous le programmez pour qu'à minuit, de toute façon, tout le monde est couché, tout s'éteigne. Alors, il y a la domotique qui va rentrer là-dedans, mais ça demande de l'investissement assez cher. Mais il faudrait mettre la pression sur les industriels pour que tous nos appareils-là puissent être moins consommateurs, notamment quand ils sont en veille.
Gaël Mac, vous vantiez tout à l'heure la politique d'indépendance du général de Gaulle, sauf que le général de Gaulle, c'était il y a longtemps. Et on a vu hier que sur notre parc nucléaire, il y avait à peu près la moitié des réacteurs qui étaient à l'arrêt, dont une bonne partie pour des problèmes de... parce qu'ils sont vieux, quoi. Ça pose... Là aussi, on va au-devant de difficultés parce qu'on veut se priver donc, des hydrocarbures russes, mais on a un parc de centrales qui a été construit dans les années 70.
Oui, on a 56 réacteurs. Je crois qu'il y en a 49 qui ont plus de 40 ans. Hein. Donc, il n'y a pas si longtemps étendu leur durée de vie jusqu'à 50 ans, mais bon, donc c'est dans 10 ans, donc c'est dans pas longtemps. On a fermé une centrale qui marchait bien,
hein, Fessenheim.
Donc voilà, et là maintenant, effectivement, d'ailleurs on l'a vu dans la campagne présidentielle, il y a un retour du nucléaire en France, clairement, puisque Emmanuel Macron a annoncé qu'il voulait construire 6 réacteurs. Mais bon, la durée de construction d'un réacteur... Je passe Flamanville, qui est un désastre, mais en espérant que EDF fasse mieux la prochaine fois, c'est quand même une durée, c'est quand même 10-15 ans la construction d'un réacteur, donc ça ne va pas sortir de terre demain. Et au-delà de la France, il y a la Belgique, par exemple, qui a 2 centrales nucléaires et qui voulait les fermer en 2023 sans plan B. Et là, ils sont en train de se dire, mais est-ce une bonne idée ?
Qu'est-ce qu'on fait en 2025 ?
Voilà, que fait-on ? Est-ce que finalement, c'est pour acheter plus de gaz russe ? C'est peut-être pas une bonne idée.
On a perdu le sens du long terme, c'est incroyable. Hein.
Voilà, et en perdant le sens du long terme, ce qui est quand même gravissime, c'est que finalement, aujourd'hui, les pays qui ont la technologie de l'atome, c'est quand même la Chine et la Russie. Et en France, on a quand même un peu perdu une filière. On a perdu vraiment même des...
D'où les retards de Flamanville et les surcoûts.
On a même perdu des chaudronniers,
des soudeurs.
Des soudeurs, tout un tas de techniciens dans cette filière nucléaire qu'on est en train maintenant d'essayer de reconstruire. Mais c'est sûr qu'il y a eu un petit problème de vision, là, en tout cas pendant 10-15 ans, sur ce marché de l'énergie.
Et le drame, c'est que cette flambée des prix de l'électricité, des prix du gaz, des prix de l'essence, elle est en train d'infuser dans toute l'économie. Et ça commence notamment, ça se répercute, on le voit, et on va comprendre pourquoi, ça se répercute dans les prix de produits alimentaires. La baguette de pain va flamber et c'est l'une des conséquences de cette flambée des prix de l'énergie. Voyez ce reportage de Françoise Vallée sur la mythique baguette de pain.
En septembre dernier, ce boulanger parisien a augmenté sa baguette. Elle est à 1,10€ et va à nouveau prendre 5 centimes dans les prochaines semaines.
Une demi-baguette qui va bientôt augmenter, madame.
Les clients sont plutôt compréhensifs.
Après, je me dis qu'il y a la guerre et qu'il y a des choses pires que ça.
Ou alors je ferai un effort sur autre chose. Voilà.
Le pain, c'est incontournable.
Oui, moi je suis aussi dans l'alimentaire, donc on n'a pas le choix d'augmenter.
La baguette, les pains, les pâtisseries, tous les produits sont concernés.
Les fruits rouges ont subi la hausse, notamment liée au carburant pour les faire venir sur Paris.
Le carburant, le beurre, le sucre et la farine qui a augmenté de 10% du jour au lendemain.
On ne pourra pas, nous, subir toutes ces hausses indéfiniment sans avoir une réaction, sous peine de mettre nos comptes en déséquilibre et de travailler à perte.
Elle est belle. Ce qui est incroyable, c'est que ça fait 25 ans qu'on dit que l'inflation a disparu. On pensait même, on redoutait même l'inflation négative, là, comment ça s'appelle ? La déflation. Et là, on l'a pas vu venir. Hein. Et comme si on se réveillait brutalement après un long endormissement qui dure depuis 30-40 ans.
Ouais, depuis le passage à l'euro, on avait une inflation qui était en dessous de 2%.
Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ce réveil brutal là, avec ces prix Attendez, j'ai les pâtes plus 13% sur un an, la farine plus 7, l'huile plus 7.
Donc sur l'alimentation, il y a quand même des facteurs climatiques, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu des problèmes de récolte. C'est qu'avant l'Ukraine, avant la hausse de l'énergie, on avait déjà le prix du blé qui augmentait, puisque ça gèle, là en ce moment vous l'avez vu, tout sur la partie fruits, sur la partie pommes, etc. On va encore, c'est la deuxième année qu'il y a un gel, et donc les productions diminuent. Donc c'est bien parce qu'il y a aussi le changement climatique qui aura forcément structurellement des hausses de prix sur l'alimentation. Donc c'est la même question que l'énergie. La politique commune au niveau européen a fait qu'on s'est un petit peu éloigné d'une production, d'une souveraineté au niveau agricole. Et là, ça revient de façon importante parce qu'on a besoin en fait de manger avant tout, hein, de se chauffer et de manger. Donc il y a cet effet des récoltes agricoles. Là, évidemment, l'énergie, il faut savoir que quand il y a une hausse d'énergie en termes d'impact économique, c'est sur l'industrie manufacturière et avant tout sur l'industrie agroalimentaire. Donc ça joue sur l'élevage, par exemple la volaille, hein, on a besoin de chauffer tous les hangars. Et puis en ce moment, il y a la grippe aviaire. Donc en fait, il y a plein de choses qui se cumulent. Ce n'est pas que l'impact de l'énergie, c'est des maladies qui vont faire que les œufs, donc là, le prix du beurre a doublé. Les œufs augmentent et quand le prix du blé augmente, ça va impacter le prix du porc et évidemment les pâtes. Donc ça a des conséquences beaucoup plus fortes parce que ça touche surtout les familles. Hein. C'est-à-dire que dès qu'on est très nombreux, on ne peut pas réduire en fait. Et souvent, l'alimentation, c'est aussi la variable d'ajustement. C'est-à-dire que quand le prix de l'énergie augmente, le prix du logement augmente, on essaye de diminuer. Et en fait, c'est ce qui s'est passé en 2008. On va revoir en fait tout le fait maison, c'est-à-dire que les gens vont refaire du pain. C'est ce qu'on a vu dans le Covid, ça avait un peu disparu, ça va revenir. Et puis on va manger toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on va essayer de réduire le prix de chaque portion. Et c'est de manger des céréales, donc de manger des pâtes, même si c'est le produit sur lequel il y a la plus forte hausse. On va manger tous les jours plus de pâtes, du riz, de la semoule et réduire la consommation de viande et de réduire les produits sucrés en fait. C'est-à-dire qu'on va réduire tout ce qui est superflu, et en plus.
Erwan Benozé, jusqu'à présent, la mondialisation, elle était facile. On a l'impression que le gaz, il nous arrivait comme ça, on ne se posait pas la question. Là, maintenant, on connaît le prix du gaz, on connaît le prix de la tonne de blé. On vient de nous apprendre que c'est passé de 200 à 400 euros. Au fond, cette mondialisation qu'on croyait heureuse, elle s'invite, je crois que vous avez été frappé, jusque chez les boulangers qui, maintenant, ont chez eux le cours du gaz en mégawattheure et le cours du blé.
J'ai une oui effectivement, vous faites allusion à une petite expérience qui m'a surpris. J'étais à C dans l'Orne et je rentre dans une boulangerie pour justement acheter du pain et je vois devant la caisse enregistreuse un tableau avec l'évolution des cours du blé.
Voilà.
Je me dis c'est quand même incroyable comment ça se fait que vous. Et elle dit je veux en fait
sensibiliser
mes clients parce que de toute façon j'ai déjà augmenté le prix de ma baguette, je vais le faire encore. Donc très souvent on me dit ah non mais alors vous en profitez, vous faites de l'argent, etc. Et donc je leur montre que moi je suis dans la même situation qu'eux. Alors moi aussi je suis acheteur, j'achète le blé que j'utilise ensuite pour faire le pain. Et vous voyez là
Et le blé il augmente parce qu'il y a une mauvaise récolte au Canada à cause du dôme de chaleur, comme vient de le dire Pascal Hébel.
Par exemple, mais il augmente aussi parce que le blé du Canada pour le transporter en Europe, eh ben il faut de l'énergie et cette énergie elle a flambé aussi. Le blé pour le cultiver, il faut des engrais azotés et aujourd'hui les engrais azotés ils se font à partir notamment, ça demande d'être très consommateur de gaz. Le gaz a flambé aussi. Tout est interconnecté.
Cette mondialisation heureuse qu'on a connue depuis la chute du mur de Berlin, elle est en rouge sur nos étiquettes.
Pour moi, mondialisation
on croyait heureuse.
C'est un oxymore. C'est-à-dire que ce sont deux termes qui s'opposent. Il n'y a pas de mondialisation heureuse. Il y a forcément une facture qui se paye. Et pendant très longtemps, ce n'est pas ou peu le consommateur qui l'a payé. C'est donc d'autres. Il y a des subventions, mais c'est aussi surtout notamment l'environnement. Et aujourd'hui, on ne veut plus faire peser sur l'environnement, la facture de cette consommation. Et donc, il va y avoir tout un nouveau système qui devra se mettre en place.
Gaël Mac, alors, Erwan Benozé nous raconte l'expérience de chez le boulanger. Mais les Français, nous sommes plutôt vernis. Inflation en France, 4,5%. Allemagne, 7,3%. Espagne, on en a parlé tout à l'heure, près de 10%. Le Guardian, hier, regardant ces chiffres, je ne sais pas si vous avez vu le Guardian, ils ont mis basse inflation en France, la vie est belle en France, en disant ils s'étonnaient de ce que chez nous, l'inflation était plus basse que chez nos voisins. On plaisante, mais il y a des pays où c'est dramatique. L'inflation en Turquie, elle est de 61%. Est-ce que chez nous, bon, bah voilà, on va mettre un pull et on va se faire du fait maison plutôt que d'aller au resto. Mais il y a des pays où ces mouvements de géopolitique mondiale, ça va mal se terminer.
Oui, oui. Ah ben, il y a des pays où ça va très mal se terminer. L'Ukraine et la Russie, outre pour la Russie être producteur de pétrole et de gaz, sont des très gros producteurs agricoles, de blé notamment, et aussi d'huile, de tournesol et donc d'huile. Et pour les pays du Maghreb et du Moyen-Orient, c'est 70-80% de leur apport de céréales, de pain, vient de Russie et d'Ukraine. Donc on prévoit déjà des émeutes de la faim, enfin des problèmes.
Il y a des gouvernements qui pourraient tomber.
De famine, on prévoit déjà qu'en Égypte, au Liban, il y a vraiment des pays du Maghreb et du Moyen-Orient qui vont être extrêmement affectés parce que là, les récoltes en Ukraine, elles pourrissent. Hein. Je veux dire, les paysans, ils ne sont pas en train de s'occuper de leur champ. Ils sont en train de se battre. Donc, on voit dans les images en Ukraine que vraiment, les champs sont en déshérence. Et l'Ukraine, c'est le grenier à blé du monde, quoi. C'est vraiment une très grosse puissance agricole. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des problèmes sur ce point à la France. Il y a deux sujets sur la France. D'abord, sur l'énergie, encore grâce aux centrales nucléaires, on est quand même moins dépendant globalement. Et donc, notre inflation due à l'énergie, elle est quand même plus faible. La facture, elle est quand même plus faible que dans d'autres pays. Et nous sommes aussi une puissance agricole. Nous produisons aussi du blé.
Exportateur, premier producteur européen de blé.
Donc là aussi, sur le plan agricole, nous importons moins que d'autres pays et donc nous avons une inflation un peu plus faible. Et c'est vrai que 4,5% d'inflation, c'est chanceux aujourd'hui. C'est chanceux. Pendant 20 ans ou 30 ans, c'était moins de 2%. Aujourd'hui, 4,5%. On a de la chance.
Et Bruno Le Maire a comparé ce qui se passe au choc pétrolier de 1973. À l'époque, c'était Pierre Messmer, le Premier ministre. Pourquoi je le cite? Parce que regardez les annonces désagréables qu'il avait faites aux Français. On regarde ce document INA de 1973.
Pour économiser l'essence auto, nous avons donc décidé de limiter la vitesse. Les courses automobiles et les rallyes seront, jusqu'à nouvel ordre, suspendues.
Pour la première fois, la vitesse est alors réglementée sur les nationales et les autoroutes et la mesure ne passe pas.
On pense que c'est une vaste imbécilité, voyez-vous. C'est bien une nouille qui a pondu ça, c'est un type qui ne va pas souvent en auto, ça se voit.
Bon, Erwan Benezet, il est question de limiter à nouveau limiter la vitesse pour économiser de l'essence?
Alors, moi, j'en ai pas entendu parler.
C'est l'Agence internationale pour l'énergie qui avait dit si on limitait notre vitesse, ça permettrait de faire des
économies. Oui, enfin, pour l'instant, le gouvernement français, en tout cas, n'a pas...
Embrayé.
Voilà.
Pour faire un bon jeu de mots.
Exactement. Mais il est sûr que ça fait partie des mesures qui pourraient permettre d'économiser un peu du carburant. Ouais.
Pascal Hébel, est-ce qu'on peut imposer, on pourrait imposer aujourd'hui des limitations de vitesse, des baisses de température
Alors, la limitation de vitesse, on l'a vu avec les 80 km/h, ça a vraiment.
La France est plus éruptive. Hein.
Il a fallu revenir en arrière dans certaines communes. Mais par contre, c'est vrai que l'Agence de l'énergie dit que sur les autoroutes, on pourrait diminuer de 10 km/h, être à 120 km/h, et ça diminuerait très fortement la note de carburant. Donc oui, il y a des choses qui pourraient être mises en place, mais pas forcément sur la mobilité. C'est vraiment un sujet qui est très difficile parce qu'il y a beaucoup trop d'inégalités. C'est-à-dire qu'il y a tellement de gens qui dépendent de la voiture pour leur travail que finalement, on ne peut pas imposer ça, alors que finalement, si on touche plutôt au chauffage, et ça concerne tout le monde, en fait. Hein, tout le monde utilise un petit peu la même énergie.
Erwan Benezet, vous avez remarqué tout à l'heure que les aides s'éteignaient cet été. Hein, je crois que le bouclier tarifaire, il y a une partie qui s'éteint en juillet, etc. La rentrée sociale va être chaude, comme on dit, en septembre?
Oui, ça va vraiment être chaud, parce qu'à chaque fois qu'on a ces hausses d'inflation qui rentrent par l'énergie, en fait, on touche toujours les mêmes catégories de population. Il y a vraiment, en 40 ans, une inégalité qui s'est accrue sur ça, sur le poids du logement. On est à 10 points.
Grandes maisons à chauffer en banlieue, voilà, et des voitures et à faire le plein.
Tout à fait. Et les zones rurales. Donc en fait, c'est vraiment ces personnes-là qui sont touchées. Et on ne fait pas de mesures qui soient ciblées, en fait. Hein. C'est 18 centimes en moins à la pompe. Il aurait mieux valu donner plus aux actifs qui utilisent leur voiture. Il fallait que ça passe par les entreprises.
Mais c'est compliqué. C'est ciblé bien.
C'est compliqué de cibler.
C'est compliqué. Voilà.
Allez, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. L'Info C'est Clair, disponible gratuitement en podcast audio sur toutes les bonnes plateformes. Vous restez sur France Info et on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Bonne journée. À demain.